Chapitre 6. Disons où on était Varennes, comme nous avons dit où on était Pont de Sommevel, Sainte-Menou et Clermont. C'était à Varennes, on se le rappelle, que le roi devait trouver un relais tout préparé, Varennes n'ayant pas de poste. Ce relais se composait des chevaux de M. de Choiseul. Il devait y avoir en outre 60 hussards à cheval et sous les armes. Le relais était arrivé le 20. Les hussards étaient arrivés le 21. Là, comme partout, les hussards étaient censés être venus pour escorter un trésor. Maintenant, pour qu'aucun des détails des scènes qui vont se passer n'échappe à nos lecteurs ou ne devienne obscur à leurs yeux, disons quelques mots de la situation topographique de Varennes. Varennes est divisée en ville haute et en ville basse. On appelle la ville haute le château. En venant de Clermont, on entre à Varennes par la ville haute. On descend par la rue principale, qu'on appelle la rue des Religieuses, et on arrive sur la place de la Trie, qui a la forme du couteau de la guillotine. C'était autrefois un cimetière. Au mois de juin 1791, elle était obstruée par une église dont le portail faisait face à la rue de l'Horloge et dont l'abside se rattachait au côté droit de la rue. Nous prenons le côté droit en venant de Paris. C'était l'église de Saint-Jean-Goulf. Les voyageurs, parvenus sur cette place, eussent été obligés de tourner autour de l'église et de passer devant sa façade pour descendre dans la rue de la Basse-Cour si une voûte n'eût été pratiquée sous l'église même, voûte sous laquelle on pouvait passer en voiture, pourvu cependant que la voiture ne fût pas trop élevée. En débouchant de cette voûte, on avait à droite l'hôtel du Bras d'Or. 20 pas après, de l'autre côté de la rue, se trouvait la maison du procureur de la commune, Sauce. Cette maison porte aujourd'hui le numéro 287. L'hôtel du Bras d'Or est devenu une maison d'épicerie portant le numéro 343. À partir de la maison du Bras d'Or, tenue par Leblanc, la rue changeait de nom, prenant celui de la rue de la Basse-Cour, et par une pente rapide, descendait ou aboutissait à patte-doie la rue de la Basse-Cour, la rue Neuve et la rue Saint-Jean. La rivière Lerre coupe carrément la place. Un petit pont, plus étroit encore que celui qui s'y trouve aujourd'hui, reliait la ville haute et la ville basse. À peine a-t-on traversé le pont, qu'en tournant l'angle de l'auberge du Grand Monarque, on débouche sur la grande place, dont le centre est occupé par l'église paroissiale. Une grande et large rue, la rue de l'Hôpital, conduit au chemin de Chépy, qui, 300 pas après les dernières maisons, s'embranche avec la route de Stenay. La route de Stenay monte à gauche à travers les vignes. Nous croyons en avoir dit assez pour nous faire comprendre, même sans mettre le plan sous les yeux du lecteur. Au reste, c'est dans la ville haute que tout le drame doit se dérouler. Le roi et la famille royale ne dépassent pas la maison de Sauce. C'est à tort que M. Thiers leur fait passer le pont, qu'il indique une voûte de l'autre côté du pont et place l'arrestation en face de l'hôtel du Grand Monarque. C'est en deçà du pont, en face de l'hôtel du Bras d'Or, que l'arrestation a eu lieu. Michelet se garde bien de tomber dans cette erreur que partage, chose étrange, M. Neveu le Maire de Sainte-Menou, qui a écrit l'histoire de l'arrestation du roi et qui, habitant à 9 lieues seulement de Varennes, n'a, selon toute probabilité, jamais eu la curiosité d'y aller. Lamartine fait la même erreur, ou une erreur à peu près semblable, en plaçant la voûte à la tête du pont. La voûte, nous l'avons dit, était sur la place de Latry et s'enfonçait sous l'église de Saint-Jean-Goulf. La voiture royale n'y passa même pas. Elle était trop haute et les deux gardes du corps placés sur le siège se fussent brisés la tête à cette voûte. Là aussi, et pour tous les faits que je vais raconter, j'ai un témoin oculaire, M. Bellet. Nous avons dit que les hussards étaient arrivés le 21. À l'arrivée du relais, la municipalité avait pris des soupçons. Ces soupçons redoublèrent à l'arrivée des hussards. On les caserna à l'ancien couvent des Cordeliers, de l'autre côté du pont. Leur commandant, M. Rorig, jeune homme de 18 ans, fut logé chez un bourgeois du même côté de la ville. Quant au relais, il devait être placé dans une ferme en avant de Varennes. Au lieu d'être placé en avant, il fut placé au-delà de la ville. Qui commit l'erreur? Monsieur de Goguelat? Non, la fatalité. Le 21 au matin, M. de Bouillet envoya son fils et M. de Raigecourt à Varennes. Ils avaient l'ordre, si le relais n'était point placé en avant de la ville, de le faire mettre juste à la place indiquée. Ils arrivèrent à Varennes. Ils trouvèrent la ville en fermentation. Ils n'osèrent point faire de mouvement avant l'arrivée du courrier. Le courrier devait précéder de 2 heures la voiture du roi. Ils auraient donc tout le temps. Nous avons dit quelles circonstances faisaient qu'au lieu de précéder la voiture, le courrier galopait à la portière. Cependant, en approchant de Varennes, le courrier avait pris les devants. Aux premières maisons de la ville, pas de relais, l'obscurité la plus complète. Il était 11h30 du soir. Monsieur de Valory ne connaissait pas Varennes. Lui-même nous a laissé les détails les plus circonstanciés sur ce qu'on va lire. Il appelle. Personne. Il frappe aux portes. Les uns ne répondent pas, les autres ne savent ce qu'il veut dire. Que faire? Attendre et prendre les ordres du roi. On entend le roulement de 2 voitures qui se rapprochent. Lorsque la berline royale arrive au haut de Varennes, la fatigue l'a emporté sur l'inquiétude. Tout le monde dort. Sur l'ordre de M. de Valory, les voitures s'arrêtent. Le roi et la reine passent leur tête aux 2 côtés de la voiture. « Eh bien, demande le roi, le relais est-il là ?»« Non, sire, répond M. de Valory, et depuis plus de 10 minutes, j'appelle et je cherche inutilement. »« Descendons, dit le roi, et prenons des renseignements. » Le roi voulait mettre pied à terre. La reine l'arrêta, descendit et prit le bras de M. de Valory. Au bruit qu'ont fait les voitures en arrivant, une porte s'est ouverte et une lumière transparaît. La reine et M. de Valory s'avancent vers cette lumière. Mais à leur approche, la porte se referme. M. de Valory s'élance et la repousse. Il se trouve alors en face d'un individu d'une 50aine d'années, vêtu d'une robe de chambre, ayant les jambes nues et les pieds dans des pantoufles. « Que voulez-vous, monsieur ? » demande-t-il à M. de Valory. « Et pourquoi forcez-vous ma porte ?»« Monsieur, répondit le garde du corps, nous ne connaissons pas Varennes. Nous allons à Stenay. Seriez-vous assez bon pour nous en indiquer la route ? Et si je vous rends ce service et que, pour vous l'avoir rendu, je sois compromis ? » reprend l'inconnu. Dussiez-vous vous compromettre, monsieur ? Vous n'hésiteriez pas à rendre ce service à une femme qui se trouve dans une position dangereuse. Monsieur, répond le gentilhomme, car à ses manières et à son langage, on pouvait reconnaître un homme comme il faut. « La femme qui est derrière vous n'est pas simplement une femme. » Et, baissant la voix, « C'est la reine !» M. de Valory voulut nier, mais la reine le tira en arrière. « Ne perdons point de temps à discuter, » dit-elle. « Prévenons seulement le roi que je suis reconnue. » M. de Valory court à la voiture et, en 2 mots, dit au roi ce qui se passe. « Priez cet homme de venir me parler, » dit le roi. L'homme obéit et s'avança vers la portière, mais non sans donner des marques d'une vive appréhension. « Votre nom, monsieur ?» lui demanda le roi, attaquant la situation avec franchise. « De Préfontaine, sire, » répondit en hésitant celui que l'on interrogeait. « Qu'êtes-vous ? » « Major de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. » En votre double qualité de major et de chevalier de Saint-Louis, vous m'avez prêté 2 fois serment de fidélité, dit le roi. Il est donc de votre devoir de m'aider dans l'embarras où je me trouve. Le major balbutia quelques mots. La reine frappait du pied avec impatience. Monsieur, continua le roi, avez-vous entendu dire que des hussards et des chevaux de relais attendissent un trésor qui doit passer à Varennes?
Oui, sire.
Où sont ces hussards? Où sont ces chevaux?
Dans la ville basse, sire, les officiers sont descendus à l'hôtel du grand monarque.
Monsieur, je vous remercie, dit le roi. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Personne ne vous a vu, personne ne vous a entendu, il ne vous arrivera donc rien. Le major profita de la permission et rentra. En effet, tout le monde ignora cette entrevue, qui serait encore ignorée si M. de Valory ne l'avait, dans sa brochure, racontée dans tous ses détails. « Messieurs, dit le roi, s'adressant à messieurs de Maldenne et de Moustier, et donnant la main à la reine pour l'aider à remonter en voiture. Messieurs, sur vos sièges. Vous, monsieur de Valory, à cheval,
et à l'hôtel du grand monarque. « Postillon !» crièrent les trois jeunes gens d'une seule voix. « À l'hôtel du grand monarque !» Mais, à ce moment même, une espèce d'apparition fantastique se dresse devant les voyageurs. Un homme couvert de poussière, monté sur un cheval ruisselant d'écume, traverse la route diagonalement, s'arrête au milieu du chemin et crie d'une voix forte et impérative « De la part de la nation, postillon, arrêtez! Vous menez le roi !» Les postillons, qui déjà enlevaient leurs chevaux, s'arrêtèrent comme frappés de la foudre. La reine vit que ce moment était suprême. « Parlez donc !» dit-elle au roi. « Qui êtes-vous, monsieur, pour donner des ordres ici ?»«
Un simple citoyen, sire. Seulement, je parle au nom de la nation et je représente la loi. Postillon, pas un pas de plus. Vous me connaissez bien et vous êtes habitué à m'obéir. Je suis Jean-Baptiste Drouet, maître de poste à Sainte-Menou. »
Et celui qui venait de parler, enfonçant ses éperons dans le ventre de son cheval, sembla s'abîmer dans la terre tant il s'élança rapidement sur la pente de la rue des Religieuses. Tout cela s'était passé en quelques secondes. Les gardes n'avaient pas eu le temps de tirer leurs couteaux de chasse. Peut-être même n'y avaient-ils pas songé.
« Postillon !» répète le roi, « à l'hôtel du grand monarque !»
Mais les postillons ne bougent pas.
« Eh bien, drôle !» dit M. de Valory, « n'avez-vous pas entendu ?»«
Si fait !» dirent les postillons, « mais vous aussi vous avez entendu. M. Drouet nous a défendu de faire un pas de plus. »
« Mais malheureux, quand le roi ordonne !»«
Notre roi, à nous, c'est M. Drouet. D'ailleurs, il a parlé au nom de la nation. »«
Allons, mes amis, » dit M. de Malden, « débarrassons-nous de ces trois coquins et conduisons la voiture nous-mêmes. »
Et les trois jeunes gens portèrent la main à leur couteau de chasse.
« Messieurs, messieurs !»
dit la reine en les arrêtant du geste. Puis, au postillon,
« Mes amis, 50 louis à chacun de vous et une pension de 500 francs si vous obéissez !»
Soit crainte des couteaux de chasse, soit tentation de l'argent, les postillons partirent au galop. On avait perdu 10 minutes à peu près. Ces 10 minutes, Drouet les avait mises à profit. Drouet, comme nous l'avons dit, s'était précipité dans la ville. Il avait descendu au grand galop de son cheval la rue des Religieuses. Il avait passé sous la voûte et, devant l'hôtel du Bras d'Or, il s'était trouvé face à face avec un autre cavalier qui arrivait ventre à terre par la rue de la Basse-Cour après avoir tourné le coin de la rue Neuve. Les deux cavaliers n'échangèrent que ces paroles.
« Est-ce toi, Drouet ? Est-ce toi, Guillaume ?
Oui, oui !»
Tous deux sautèrent à bas de leurs chevaux, qu'ils poussèrent vers l'écurie par la grande porte de l'auberge, puis entrant vivement dans la cuisine.
« Alerte ! » cria Drouet, « qu'on prévienne tout le monde. Le roi et la famille royale se sauvent. Ils vont passer dans deux voitures. Il s'agit de les arrêter. »
Puis, comme si une idée lumineuse lui traversait le cerveau,
« Viens, Guillaume, viens » cria-t-il.
Dans toute expédition de ce genre, il y a un homme qui prend le commandement sans que personne le lui défère. On lui obéit, on ne sait pourquoi. Seulement, c'est à lui à répondre devant Dieu des ordres qu'il a donnés. Drouet ordonna, Guillaume obéit. Tous deux s'élancèrent hors de l'hôtel. Drouet avait songé au plus pressé, c'est-à-dire à intercepter le pont qui communiquait de la ville haute à la ville basse, où étaient les relais et les hussards. Le hasard, je ne trouve pas un autre mot, leur fit rencontrer une voiture chargée de meubles. Ils arrêtèrent la voiture, la conduisirent au pont, et, aidés du citoyen Régnier, ils la renversèrent en travers du pont. Le plus pressé était fait, le passage était intercepté. En cet instant, ils entendirent répéter les cris « Au feu !» Un des deux frères Leblanc courut chez l'épicier Sauce, procureur de la commune, le fit lever et le prévint de ce qui se passait. Lui, à son tour, fit lever ses enfants, et, tels qu'ils étaient, en chemise, nu-pieds, il les envoie crier « Au feu !» dans la rue Neuve et la rue Saint-Jean. C'était ces cris que Drouet, Guillaume et Régnier avaient entendus en barricadant le pont. Juste à ce moment, les postillons se décidaient à descendre dans la ville. Ils évitèrent la voûte où, nous l'avons dit, les gardes placés sur le siège se fussent brisés la tête contre le cintre, tournèrent l'église et s'apprêtèrent à descendre la rue de la Basse-Cour. La petite voiture précédait la grande, comme une corvette destinée à éclairer sa marche précède un vaisseau de 74. À peine la petite voiture avait-elle tourné l'angle de la place pour entrer dans la rue de la basse-cour que deux hommes sautaient à la bride des chevaux. Ces deux hommes, c'étaient les frères Leblanc. Cette première voiture, on le sait, ne contenait que mesdames Brunier et Denneville. Le procureur de la commune, Sauce, qui avait eu le temps de s'habiller, se présenta à la porte et demanda les passeports.
« Ce n'est point nous qui les avons !» répondit une des deux femmes. « Ce sont les personnes des autres voitures !»
Monsieur Sauce s'y porta aussitôt. Une force déjà assez considérable était réunie autour de lui. Sans compter Drouet, Guillaume et Régnier, qui barricadaient le pont et allaient accourir à ce premier appel, il y avait quatre gardes nationaux armés de leurs fusils. C'étaient les Sieur, Leblanc, Coquillard, Justin-Georges, Soussaint, auxquels s'étaient joints, armés de fusils de chasse, deux voyageurs logés à l'hôtel du Bras d'Or, messieurs Thévenin des Ilettes et Délion de Montfaucon. Le procureur de la commune s'approcha de la portière de la seconde voiture et, comme s'il ignorait qu'elle contint le roi et la famille royale, il demanda « Qui êtes-vous? Où allez-vous »
« Je suis la baronne de Korff, » répondit madame de Tourzel, « et je vais à Francfort. »
« Madame la baronne, dit Sauce, remarquera qu'elle a dévié de son chemin. Mais, ajouta-t-il, la question n'est point là. Vous avez sans doute un passeport ?» La fausse madame de Korff tira le passeport de sa poche et le présenta au procureur de la commune. On sait déjà dans quels termes il était conçu. Sans doute le procureur eût été pris s'il n'eût pas été prévenu. Mais pendant cette espèce d'interrogatoire, qui n'avait duré que 5 secondes, il avait levé sa lanterne à la hauteur du visage des voyageurs et avait reconnu le roi. Le roi, au reste, avait voulu faire une espèce de résistance.
« Qui êtes-vous » avait-il demandé à Sauce. « Quelle est votre qualité? Êtes-vous garde national ?»«
Je suis procureur de la commune, » avait répondu Sauce. Le passeport alors lui avait été remis. Sauce y jeta les yeux, puis s'adressant non pas au roi, mais à la fausse madame de Korff. « Madame, dit-il, il est trop tard à cette heure pour viser un passeport. Il est de mon devoir de ne pas vous laisser continuer votre route. »«
Et pourquoi cela, monsieur ?» demanda la reine de son ton bref et impératif.
« Parce qu'il y a des risques à courir, madame, à cause des bruits répandus en ce moment. »«
Et ces bruits, quels sont-ils ?»
On parle de la fuite du roi et de la famille royale. Les voyageurs se turent, la reine se rejetant en arrière. Dans ce moment, une discussion s'élevait. Le passeport avait été porté à l'hôtel du Bras d'Or et on l'examinait à la lueur de 2 chandelles. Un municipal fit observer que le passeport était en règle puisqu'il était signé du roi et du ministre des Affaires étrangères. « Oui, dit Drouet qui venait d'arriver après avoir barricadé le pont. Mais il n'est pas signé du président de l'Assemblée nationale. » Ainsi, cette grande question sociale qui se débattait depuis 700 ans, y a-t-il en France une autorité supérieure à celle du roi, allait se trouver tranchée dans la cuisine de l'auberge d'une petite ville perdue sur la lisière des bois de l'Argonne. Drouet revint à la voiture. « Madame, dit-il, en s'adressant à la reine et non à madame de Tourzel, « si vous êtes vraiment madame de Korff, c'est-à-dire une étrangère, comment avez-vous assez d'influence pour vous faire escorter d'un détachement de dragons à Sainte-Menou, d'un autre détachement à Clermont et d'un détachement de hussards à Varennes? Veuillez, je vous prie, descendre de voiture et venir vous expliquer à la municipalité. » Il y eut parmi les illustres voyageurs un moment d'hésitation. Ce fut dans ce moment que, selon Weber, le valet de chambre de la reine, Drouet porta la main sur le roi pour le presser de descendre. En ce moment aussi, le tocsin commençait à sonner. Le procureur de la commune était fort embarrassé. Ce n'était rien moins que l'homme faux et dissimulé, le jacobin haineux mais timide dont parle monsieur de la Cretelle. C'était tout simplement un bonhomme, fort loin d'être en cela l'auteur d'une pareille situation. Pour juger l'homme, il faut avoir la patience de lire les 2 procès-verbaux rédigés sous ses yeux et probablement sous son influence, celui du 23 juin, celui du 27. Voici d'où venait l'embarras de M. Sauce. S'il laissait conduire le roi à l'hôtel de ville, il était compromis vis-à-vis de la royauté. S'il laissait le roi dans sa voiture, il était compromis vis-à-vis des patriotes. Il prit un terme moyen. Humblement et le chapeau bas, au milieu du bruit du tocsin, du tumulte qui commençait à courir par les rues, il s'approcha de la portière. « Le conseil municipal, dit-il, est en train de délibérer afin de savoir si vous pouvez continuer votre route. » Mais le bruit s'est répandu que c'était le roi et son auguste famille que nous avions l'honneur de posséder dans nos murs. Je vous supplie, qui que vous soyez, d'accepter ma maison comme un lieu de sûreté en attendant le résultat de la délibération. Malgré nous, comme vous pouvez l'entendre, le tocsin sonne depuis un quart d'heure. L'affluence des habitants de la ville va s'augmenter de celle des campagnes voisines, et peut-être le roi, si c'est véritablement au roi que j'ai l'honneur de parler, se verrait-il exposé à des avanies que nous ne pourrions prévenir et qui nous accableraient de douleur. Il n'y avait pas moyen de résister. Les gardes du corps, armés de leurs petits couteaux de chasse, se trouvaient à la merci d'une trentaine de personnes armées de fusils. Le tocsin frissonnait dans l'air et dans les cœurs. Louis XVI accepta, descendit, fit une quinzaine de pas, entra dans la boutique de Sauce avec sa femme, sa sœur, Madame de Tourzel et les deux enfants. Sauce faisait au roi toutes sortes de politesses et s'obstinait à l'appeler « Votre Majesté ». Le roi, au contraire, s'obstinait à soutenir qu'il était Monsieur Durand, simple valet de chambre. La reine n'eut point le courage de supporter cette humiliation à laquelle se résignait son mari.
« Eh bien » s'écria-t-elle tout à coup. « S'il est votre roi, et si je suis votre reine, traitez-nous donc avec les égards qui nous sont dus. »
À ces mots, le roi lui-même prend honte. Il se redresse et essaie de dire avec une certaine majesté « Eh bien oui, je suis le roi, et voilà la reine et mes enfants. » Mais sous ce malheureux costume, avec ses habits d'intendant, avec cette culotte marron et ses bas gris, avec sa perruque de laquais, Louis XVI, déjà vulgaire sous l'habit royal, ne peut reconquérir sa dignité perdue, et il cause autant d'étonnement en disant « Je suis le roi » qu'il causait de pitié en disant « Je ne le suis pas ». Cependant, une inspiration subite faillit le sauver. Placé dans la capitale, au milieu des poignards et des baïonnettes, je viens chercher en province, au milieu de mes fidèles sujets, la liberté et la paix dont vous jouissez tous. Nous ne pouvons, ma famille et moi, rester plus longtemps à Paris sans y mourir. » Et, ouvrant ses bras, il serre contre sa poitrine le procureur de la commune. Tous ceux qui étaient présents sentirent les larmes leur venir aux yeux. Le rapport officiel lui-même exprime ce sentiment général par une phrase prétentieuse mais qui ne laisse pas de doute. « Cette scène attendrissante, dit-il, fit jeter sur le roi des regards d'un feu d'amour que ses sujets connurent et sentirent pour la première fois et qu'ils ne purent caractériser que par leurs larmes. » Voilà donc comment les choses se passèrent, selon toute probabilité, et non comme les raconte M. de Lacretelle. Opposant le passage de son histoire à ce que nous venons de dire et jugeant de la valeur du tout par les deux fragments que nous en aurons donnés. Ce n'est pas le procès de la langue, l'analyse du style que nous faisons, nous n'en sommes plus à ces puérilités avec le digne académicien. C'est le procès de la pensée, de la tendance, de l'intention. Drouet a rejoint son compagnon. Ils diffèrent de donner l'alarme, appellent à eux quelques hommes de la ville qui leur sont attachés par l'odieux lien du jacobinisme. Ils courent au pont et le barricadent à l'aide de plusieurs voitures. Cependant, on avait décidé les postillons à partir. Mais, arrivés au pont, quel obstacle se présente ? Le passage est rendu impraticable. Les gardes du corps s'élancent du siège pour dégager le pont. Drouet et ses compagnons osent se présenter à la voiture du roi. « Vous ne partirez pas, s'écrie-t-il. Entendez-vous le tocsin ? Il vous avertit que nous sommes sur les pas des traîtres. » Le fusil du régicide Drouet était braqué sur la voiture du roi. Les gardes du corps frémissent. Ils ne désespèrent pas de renverser et d'exterminer ces hommes odieux. Quand le roi eût été plus exercé au péril de cette sorte, il n'eût pu se résoudre à y exposer sa femme, ses deux enfants, sa sœur, tout l'espoir de la France. Il retient ses gardes du corps et leur défend d'engager le combat. Messieurs de Valory, de Moustier et de Malden abaissent leurs armes en frémissant. Drouet insiste sur l'exhibition du passeport. La reine montre un passeport qui lui avait été donné par M. de Montmorin sous le nom d'une dame russe. Drouet élève de nouvelles difficultés. Au reste, ajoute-t-il, c'est au procureur de la commune à en juger. Cet officier municipal venait d'arriver. Il prie les voyageurs de se rendre chez lui pour qu'ils puissent examiner les passeports et joue la bonhomie, affecte des égards, offre son bras à la reine pour la conduire. On descend. Le roi tient un de ses enfants dans ses bras, l'autre par la main. Son cœur conservait encore de l'espérance, car il était bien difficile qu'un des détachements préposés pour assurer sa route n'accourût pas pour le secourir. À peine est-on entré dans la maison, qu'un attroupement formé par Drouet l'environne, menace les voyageurs, et pendant ce temps, le perfide municipal a l'air de s'interposer pour maintenir le bon ordre et calmer les habitants. Son œil faux exprime au roi l'obligeance, le respect. Il boit avec lui d'un vin qu'il lui a offert. Il entend sans tressaillir des paroles où Louis, qui se croit déguisé, exprime cette parfaite bonté qui n'appartient qu'à lui. Il voit, sans chanceler dans sa résolution cruelle, sans détester ses ruses, il voit deux princesses d'une rare beauté, deux enfants qui, aux grâces de leur âge, ajoutent l'intérêt du malheur. Quel sera leur sort? Le barbare ne s'arrête point à cette considération, et peut-être croit-il remplir simplement ce qu'il doit à sa patrie, tant sont dangereux pour les âmes communes les devoirs nouveaux qui viennent briser tout l'ordre des premiers et des plus saints devoirs. Je n'ai pas le courage de rapporter toutes les réponses insidieuses qu'il fit au roi et que lui-même a mentionnées dans son procès-verbal avec une satisfaction exécrable. M. de Bouillet, qui cependant est plus intéressé que M. de la Cretelle dans la question, est bien autrement juste que lui. Voici ce que dit M. de Bouillet. Les citoyens s'opposent au départ de Louis XVI sans cependant lui manquer de respect. La plupart lui marquent des égards, quelques-uns même de la sensibilité, soit réelle, soit apparente, l'assurant qu'ils sont contraints d'attendre les ordres de l'Assemblée. Revenons à notre récit. Au moment où le roi vient d'ouvrir ses bras à Sauce et où tout le monde pleure, on entend un grand bruit de pas de chevaux. C'est messieurs de Goguelat, M. Boudet et les 40 hussards de Pont-de-Sommevel qui arrivent. Le roi devine un secours. Sauce comprend un danger. Il fait monter ses hôtes illustres et leur ouvre une chambre située sur le derrière de la maison. En ce moment, un grand tumulte se fait entendre. Des voix crient « Le roi ! Le roi !» D'autres voix répondent « Si c'est le roi que vous voulez, vous ne l'aurez que mort !» Le tumulte s'apaise un instant, comme il arrive lorsqu'on parlemente. Sauce descend, puis remonte quelques instants après, suivi d'un homme qui se dit aide-de-camp de M. de Bouillet et demande à parler au roi. Cet homme, c'est M. de Goguelat. Le roi, tout joyeux, frappe dans ses mains. C'est la première personne de connaissance qui se présente à ses yeux. C'est évidemment l'avant-garde du secours qui va lui arriver. Derrière M. de Goguelat, il reconnaît M. de Choiseul. Des pas retentissent de nouveau dans l'escalier. Ce sont ceux de M. de Damas. Les trois officiers, au fur et à mesure qu'ils rentrent, jettent un regard autour d'eux. Voici ce qu'ils voient. Une étroite chambre. Au milieu de cette chambre, une table. Sur cette table, un morceau de papier et quelques verres. Dans un coin, le roi et la reine. Près de la fenêtre, Madame Élisabeth et Madame Royale. Au fond, le dauphin, épuisé de fatigue, dormant sur un lit. Au pied du lit, Madame de Tourzel, les deux femmes de chambre de service, Madame de Neuville et Madame Brunier. À la porte, deux sentinelles, ou plutôt deux paysans armés de fourches. Le premier mot du roi fut « Eh bien, messieurs, quand partons-nous ? Sire, quand il plaira à votre majesté. » « Donnez vos ordres, » ajouta M. de Choiseul. « J'ai avec moi 40 hussards, mais ne perdez pas de temps, il faut agir avant que mes hussards ne soient gagnés. » « Alors, messieurs, dit le roi, descendez, faites ouvrir le passage, mais pas de violence. » Les jeunes gens descendent. Au moment où M. de Goguelat touchait le seuil de la porte, la garde nationale sommait les hussards de mettre pied à terre. « Hussards ! » crie M. de Goguelat, « restez à cheval !»« Pourquoi faire ? demanda un officier de la garde nationale nommé le roi.
Pour garder le roi, répond M. de Goguelat. Nous le garderons bien sans vous, répond l'officier.
M. de Goguelat remonte avec M. de Choiseul. Tous deux s'adressent à la reine.
Madame, disait-il, il ne faut plus songer à partir avec des voitures, mais il y a encore un moyen de passer.
Lequel ?
Voulez-vous monter à cheval et partir avec le roi ?
Le roi tiendra le dauphin. Le pont est barré, mais au bout de la rue Saint-Jean, la rivière est guéable. Avec nos 40 hussards, nous passerons.
En tout cas, prenons un parti. Nos hussards commencent à boire avec le peuple. Dans un quart d'heure, ils fraterniseront avec lui.
La reine recula. Ce cœur de bronze faillit au moment décisif. Elle redevint femme, elle eut peur d'une bagarre, d'une échauffourée, d'une balle.
« Adressez-vous au roi, messieurs, » dit-elle. « C'est le roi qui s'est décidé à cette démarche. C'est au roi d'ordonner, mon devoir est de le suivre. »
Puis elle ajouta timidement, « Après tout, monsieur de Bouillet ne peut tarder à arriver. » Les trois gardes du corps étaient là, debout, prêts à tout tenter. Monsieur de Choiseul et monsieur de Goguelat insistaient. Monsieur de Damas était en bas avec ses deux ou trois dragons. Si le roi répondait oui, il y avait encore une chance.
« Messieurs, dit le roi, pouvez-vous bien me répondre que dans cette bagarre, quelque balle n'atteindra pas la reine, ma sœur ou mes enfants ?»
Un seul et même soupir s'échappa de la bouche des défenseurs du roi. Ils le sentaient plier dans leurs mains.
Puis, ajouta le roi, raisonnons froidement. La municipalité ne refuse point de me laisser passer. Le pis-aller est que nous soyons forcés d'attendre ici le jour. Or, avant le jour, M. de Bouillet sera averti de la situation où nous sommes. Il est à Senet. Senet est à 8 lieues d'ici. 2 heures suffisent pour aller, 2 heures pour revenir. M. de Bouillet ne peut donc manquer d'arriver au matin. Alors, sans danger et sans violence, nous partirons.
Il achevait à peine ces mots que le conseil municipal entre. La décision de la municipalité est brève et précise.
Le peuple s'oppose absolument à ce que le roi se remette en route. On a résolu d'envoyer un courrier à l'Assemblée nationale afin de connaître ses intentions.
Et, en effet, un citoyen de Varennes, M. Maugin, chirurgien, est parti à Franc-Étrier pour Paris.
Goguelat voit qu'il n'y a pas un instant à perdre. Il s'élance par les escaliers, sort de la maison, saute à cheval et s'écrie « Hussards, êtes-vous pour le roi ou pour la nation ?»
Les hussards étaient allemands. Ils comprennent mal.
Quelques-uns disent « La nation ! La nation !»
D'autres
« Der König ! Der König !
Le roi !» Drouet alors s'avance sur M. de Goguelat, un fusil à la main.
« Vous voulez avoir le roi ? » dit-il. « Mais c'est moi qui vous le jure, vous ne l'aurez que mort. »«
Si vous faites un pas, ajoute le commandant de la garde nationale, M. Roland, en armant un pistolet qui tenait à la main, je vous tue. »
M. de Goguelat pousse son cheval sur lui. M. Roland tire de si près que la flamme de son pistolet aveugle le cheval de M. de Goguelat, qui se cabre et se renverse sur son cavalier. Cet accident fit croire à plusieurs historiens que M. de Goguelat avait été renversé par la balle. Celui qui avait tiré le coup en fut persuadé tout le premier. Il en devint fou et mourut de ce coup de pistolet qu'il avait tiré sur un autre. En voyant leur chef renversé, les hussards se décident à faire un mouvement. Mais alors Drouet crie « Canonniers, à vos pièces !» Les hussards voient dans la nuit les mèches se rapprocher de 2 petites pièces placées en batterie au bas de la rue Saint-Jean. Ils se croient entre 2 feux et crient « Vive la nation !» Les 2 pièces étaient enclouées, la rouille avait dévoré leurs affûts, elles étaient depuis plus de 10 ans hors de service. L'effet n'en était pas moins produit. Les gardes nationaux se jettent sur messieurs de Choiseul et de Damas, les arrêtent et les désarment. M. de Goguelat, que l'on croyait plus gravement blessé qu'il ne l'était, est laissé libre. Il profite de cette liberté pour remonter près du roi et rendre dans la chambre tout sanglant. Il s'était fendu la tête sur le pavé, mais il ne sentait pas sa blessure. L'aspect de la chambre avait changé. Il était devenu navrant.
Marie-Antoinette, qui était en réalité la force et la vie de la famille, était brisée. Elle avait entendu les cris, les coups de feu. Elle voyait rentrer M. de Goguelas sanglant. Le côté de la femme l'emportait. Le roi, debout, priait l'épicier Sauce, comme si cet homme pouvait, le voulût-il, rien changer à la situation. La reine, assise sur un banc entre deux caisses de chandelles, priait l'épicière.
« Oh, madame !» lui disait-elle, « n'avez-vous donc pas des enfants, un mari, une famille ?»
Mais elle, avec son égoïsme bourgeois et brutal, lui répondit « Je voudrais bien vous être utile, certainement, mais si vous pensez au roi, moi, je pense à Monsieur Sauce. » La reine se détourna, versant des larmes de colère. Elle ne s'était jamais si fort abaissée. Le jour commençait à paraître. La foule encombrait la rue, la place de la rue Neuve et la place de la Trie. Tous les citoyens à leurs fenêtres criaient
« À Paris ! À Paris ! Le roi, à Paris !»
On engagea Louis XVI à se montrer pour calmer la foule. Hélas, se montrer ! Ce n'était même plus comme au 6 octobre, au balcon de la cour de marbre qu'on allait se montrer, c'était aux fenêtres de l'épicier Sauce. Louis était tombé dans une profonde torpeur. Les cris redoublaient. 5 ou 6 personnes à peine avaient vu, ou plutôt entrevu le roi. Le reste voulait absolument le voir. À cette époque, où il fallait 6 ou 7 jours par la diligence pour aller de Varennes à Paris, c'était une chose curieuse que de voir le roi. Chacun s'en faisait une idée à sa façon. Aussi, la stupéfaction fut-elle grande quand Louis XVI se montra, alourdi, les yeux enflés, éprouvant à toute cette multitude une chose dont elle ne se doutait pas, c'est qu'un roi pouvait être un gros homme pâle, gras, muet, à l'œil terne, aux lèvres pendantes, avec une pauvre perruque et un habit gris. La foule crut d'abord qu'on se moquait d'elle et hurla. Puis, quand elle fut bien assurée que c'était le roi, « Ah, mon Dieu !» fit-elle. « Pauvre homme !» Puis la pitié la prit. Les cœurs débordèrent, les larmes se firent jour. « Vive le roi !» cria la foule. Si Louis XVI eût su profiter de ce moment, s'il eût appelé toute cette foule à son secours et au secours de ses enfants, peut-être l'eût-elle conduit elle-même au-delà de ce pont barricadé et remis entre les mains des hussards. C'est dans le premier procès-verbal, dans le procès-verbal du 23, que cette impression est bien sensible. Il ne tira aucun parti de cette pitié, de cet attendrissement. Un exemple fut donné en ce moment de cette commisération qu'inspirait la famille royale. Sauce avait une vieille mère, une femme de 80 ans. Elle était née sous Louis XIV, elle avait la foi du royalisme. Elle entra dans la chambre. Quand elle vit son roi et sa reine accablés, quand elle vit les 2 enfants qui dormaient sur le lit de la famille qu'elle ne pouvait supposer être un jour destinée à ce triste honneur, elle tomba à genoux devant ce lit, y fit sa prière et, se tournant vers la reine, « Madame, dit-elle, voulez-vous me permettre de baiser les mains de ces 2 innocents ?» La reine fit un signe de tête. La bonne femme leur baisa les mains, les bénit et sortit en éclatant en sanglots. La reine fut la seule qui ne dormit pas. Le roi, qui avait besoin, quelle que fût sa préoccupation d'esprit, de dormir et de manger, ayant mal dormi et mal mangé, semblait hors de sens. Vers les 6h30, on lui annonça M. d'Eslon. M. d'Eslon arrivait de Dun avec 100 hommes. Il avait trouvé la rue de l'hôpital barricadée. Il avait parlementé, avait demandé à parler au roi et en avait obtenu la permission. Il raconta au roi qu'au bruit du tocsin, il était accouru, que M. de Bouillé, averti par son fils et M. de Règecourt, allait sans doute arriver. Le roi ne l'entendait pas et semblait même ne pas l'écouter. 3 fois, M. d'Eslon lui répéta la même chose et, d'un ton presque impatient, la 3e fois, « Sire, lui dit-il, ne m'entendez-vous point ?»«
Que me voulez-vous, monsieur ?» demanda le roi comme s'il sortait d'une rêverie.
« Je vous demande vos ordres pour monsieur de Bouillé, sire. »«
Je n'ai plus d'ordres à donner, monsieur, dit le roi. Je suis prisonnier. »«
Mais enfin, sire !»«
Qu'il fasse ce qu'il pourra pour moi. »
M. d'Eslon se retira sans pouvoir obtenir une autre réponse. En effet, le roi était bien prisonnier. Le tocsin avait fait sa funèbre besogne. Chaque village avait envoyé son contingent. 4 ou 5 000 hommes encombraient les rues de Varennes. Vers 7 heures du matin, 2 hommes arrivant par la route de Clermont sur des chevaux ruisselants de sueur se firent jour à travers cette multitude. Les cris du peuple annoncèrent au roi un incident nouveau. Bientôt, la porte s'ouvrit et donna passage à un officier de la garde nationale. C'était ce même Raillon, cet officier qui, pendant qu'il prenait un instant de repos à Châlons, avait envoyé un exprès à Sainte-Menou. Il entre dans la chambre royale, fatigué, exalté, presque fou, sans cravate, sans poudre. « Ah, sire, » dit-il d'une voix entrecoupée, « nos femmes, nos enfants, on s'égorge à Paris. Sire, vous n'irez pas plus loin. L'intérêt de l'État !» Et il tombe presque évanoui sur un fauteuil. « Eh, monsieur !» dit la reine en lui prenant la main et en lui montrant Madame Royale. « Ne suis-je donc pas mère aussi, moi ?»« Enfin, monsieur !» demanda le roi. « Qu'y a-t-il et que m'annoncez-vous »« Sire, un décret de l'Assemblée. »« Où est-il ?»« Mon camarade à la porte. » « Votre camarade ?» L'officier fait signe d'ouvrir la porte. Un des gardes du corps l'ouvre et l'on voit M. de Romeuf appuyé contre la fenêtre de la première chambre et pleurant. Il s'avança les yeux baissés. La reine tressaillit à sa vue. On se le rappelle, M. de Romeuf accompagnait Lafayette lors de la visite qu'il fit au roi un quart d'heure avant que le roi partît. « Quoi, monsieur, c'est vous ?» dit la reine. « Oh, je ne l'aurais jamais cru !» Monsieur de Romeuf tenait à la main le décret de l'Assemblée. Le roi le lui arracha des mains, jeta les yeux dessus et s'écria « Il n'y a plus de roi en France !» La reine le prit à son tour, le lut et le rendit au roi. Le roi le relut, puis le posa sur le lit où dormaient le dauphin et Madame Royale. « Oh, non, non !» dit la reine exaspérée, furieuse, effarouchée de haine et de colère. « Je ne veux pas que cet infâme papier touche et souille mes enfants !»« Madame, dit alors Romeuf, vous me reprochiez tout à l'heure de m'être chargée de cette mission. Ne vaut-il pas mieux que ce soit moi que tout autre qui soit témoin de vos emportements ?» Il y eut, à cette action de la reine, en effet, un murmure terrible parmi les assistants. « Je me hâtais, dit M. de Choiseul dans sa relation, c'est à lui qu'on doit tous ces détails. Je me hâtai de ramasser le décret et je le posai sur la table. « Au moins, monsieur, dit la reine en s'adressant à Romeuf, je vous recommande monsieur de Choiseul, monsieur de Damas et monsieur de Goguelat quand nous serons partis. » Et, en effet, la reine voyait bien qu'il fallait partir. Il était 7 heures du matin, monsieur de Bouillet ne paraissait pas. Les paysans des environs de Varennes continuaient d'affluer vers la ville, armés de fusils, de fourches et de faux, et chaque nouvelle arrivée criait, plus fort que les autres, « À Paris ! À Paris !» La voiture était toute attelée. Le roi se cramponnait à tout obstacle, comptant chaque minute, attendant Bouillet. Enfin, il fallut se décider. Le roi se leva le premier. La reine ensuite. Une de ces femmes, soit réellement, soit pour gagner du temps, s'évanouit. « On me mettra en morceaux si l'on veut, » dit la reine, « mais je ne partirai pas sans celle dont le malheur a fait mon ami. »« Eh bien, soit, restez si vous voulez, » dit un homme du peuple, « moi, j'emporte le dauphin. » Il prit l'enfant royal dans ses bras et s'avança vers la porte. La reine lui arracha le dauphin et descendit rugissante. Toute la famille était à bout de force. En arrivant dans la rue, Madame Élisabeth s'aperçut avec terreur que la moitié des cheveux blancs de la reine avait blanchi. L'autre moitié devait blanchir à la conciergerie dans une nuit non moins terrible. En montant en voiture, les 3 gardes du corps remontèrent sur le siège. Monsieur de Goguelat avait trouvé moyen de s'échapper par la ruelle située derrière la maison du procureur de la commune. Monsieur de Choiseul et Monsieur de Damas furent conduits à la prison de la ville avec Monsieur de Romeuf, qui se fit emprisonner avec eux pour les protéger plus efficacement. Enfin, la voiture s'ébranla et partit, escortée par la garde nationale, sous le commandement de M. de Signemont, par les hussards de M. de Choiseul, envoyés pour protéger la fuite, et par plus de 4000 citoyens de Varennes et des environs, armés de fusils, de fourches et de faux. La voiture du roi ne dépassa pas la maison de l'épicier Sauce. Voilà la limite historique du fatal voyage. Que faisait donc M. de Bouillet pendant ce temps? Prenons sa relation après celle de messieurs de Valory, de Goguelat, de Choiseul, et nous allons le voir. Il était à Dun, où il avait passé la nuit dans des inquiétudes mortelles. C'était le point le plus avancé de son observation. À 3 heures, n'ayant aucune nouvelle, il remonta vers Stenay. À Stenay, il était au centre de ses forces et pouvait agir plus efficacement, disposant d'un plus grand nombre d'hommes. De 4 à 5 heures, il y fut successivement rejoint par M. de Rorigue, par M. de Règecourt, par son fils. Alors il sut tout. Mais M. de Bouillet était peu sûr de ses hommes. Il était environné de villes mauvaises, comme il dit, c'est-à-dire patriotes. Il était menacé par Metz, par Verdun, par Stenay. C'était surtout dans la crainte de Stenay qu'il avait quitté Dun. Royal Allemand était le seul régiment sur lequel on put compter. Il fallait le chauffer à blanc. M. de Bouillet et son fils Louis s'y mirent corps et âme. Une bouteille de vin et 1 louis par homme firent l'affaire. Encore lui fallut-il 2 heures pour s'armer et partir. Il partit enfin, mais à 7 heures. En 2 heures, il fit les 8 lieues qui le séparaient de Varennes. Sur la route, ils rencontrèrent un hussard. « Eh bien, le roi a été arrêté. »« Nous le savons, après. » « Le roi part à 7 heures de Varennes. »« Pour où part-il ? » ?»« Pour Paris. » Bouillet ne se donne pas le temps de répondre. Il enfonce les éperons dans les flancs de son cheval. Son régiment le suit. Varennes les vit descendre comme une trombe à travers ses vignes. Le procès-verbal le dit. Le roi était parti depuis 1 heure. Il s'agit de ne point perdre de temps. La rue de l'hôpital est barricadée, le pont est barricadé, on tournera la ville, on passera la rivière à Gué aux Boucheries et on viendra prendre position sur la route de Clermont pour arrêter l'escorte. On fait ainsi. La rivière est passée. 300 pas encore et l'on sera sur la route. Mais on rencontre le canal du Moulin. 6 pieds d'eau. Un talus impossible. Il fallut s'arrêter et revenir en arrière. Lisez la relation du jeune Louis de Bouillet. « Nous nous enfoncions, dit-il, avec cette petite troupe dans la France armée contre nous. » On eut un instant l'idée d'aller tourner la ville dans le sens opposé, de passer la rivière au gué de Saint-Jean-Goulfe, de prendre la rue Saint-Jean, de traverser Varennes et de tomber sur les derrières de l'escorte. Mais les dragons étaient exténués, mais les chevaux s'abattaient à chaque pas. Mais il faudrait combattre pour traverser Varennes, combattre pour arriver jusqu'au roi. On annonçait que la garnison de Verdun était en route avec du canon. La foi manqua, on comprit que tout était perdu. M. de Bouillet remit, en pleurant de rage, son épée au fourreau et, en pleurant de rage, ordonna la retraite. Les habitants de la ville haute le virent, lui et ses hommes, stationnant 1 heure encore et ne pouvant se décider à partir. Ils reprirent enfin la route de Dun. Ils disparurent de l'autre côté de la colline. On ne les revit plus. Le roi continua son chemin, le chemin de la croix.